Je vous invite à lire avec moi le psaume 39. Psaume de David. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole. Ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est toute en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours. Ce matin, je voudrais commenter quelques aspects de ce psaume de David, et en particulier ce qu'il dit du silence, du fait de se taire au lieu de parler. David, c'est l'homme qui n'a jamais cessé de parler à Dieu, même lorsqu'il s'est tu. David, c'est l'homme qui a souffert et lutté dans le silence. David, c'est l'homme qui a retrouvé la paix dans le silence. David, c'est l'homme qui s'est enfermé dans le silence. David, c'est l'homme qui s'est libéré du silence. Comment commence notre psaume ? Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Bonne résolution. Bonne attitude. Et pourtant, quand on commence à parler en disant « je me suis dit », on peut toujours s'interroger pour savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Il y a longtemps, j'avais fait une prédication sur « je me suis dit », mais j'avais pris un autre texte que celui-là, rassurez-vous. Et c'était lorsque le roi Saül, qui devait attendre que Samuel vienne au bout de 7 jours, selon ce qui lui avait été demandé, s'est dit, je me suis dit, le peuple s'en va, les soldats me délaissent, l'ennemi va m'attaquer, alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste, ce qu'il n'avait absolument pas le droit de faire. Et quand Samuel est arrivé juste à la fin de cet holocauste, il lui a dit: tu as agi en insensé, tu n'as pas réussi l'épreuve du début de ta royauté. Je me suis dit, ce qui compte, c'est le contenu de ce qu'on se dit, parce que le fait de se dire des choses, c'est bien. David se raconte à lui-même, il parle à Dieu et il parle à ses frères en se disant cela. Je me suis dit, ici, on peut apprécier cette prudence, parce que craignait David ? Il craignait qu'en gémissant, qu'en laissant exhaler ses plaintes, c'est-à-dire tout ce qui n'allait pas, tout ce qui bouillonnait dans son cœur, ce qu'il craignait, c'était de donner un aliment aux adversaires qui étaient là en témoin de sa détresse et de leur fournir des arguments pour mépriser Dieu, pour le critiquer et pour le juger. C'est utile de se dire quelque chose parce que la parole aide à expliciter, à réfléchir. C'est une sorte de retour de la pensée sur elle-même pour évaluer et pour approfondir. Quand on se dit quelque chose à soi-même, on sort ce qu'on pense et on sort aussi de ce qu'on pense. Et en se l'exprimant, on peut se dire... Mais est-ce que j'ai raison de penser ainsi ? Est-ce que j'ai raison de dire cela ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Ça vous est jamais arrivé, ça ? De vous poser la question ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est une bonne réflexion. De commencer par se dire, je me suis dit. C'est une bonne résolution parce qu'elle correspond aussi à la sagesse concernant l'usage de la parole et de la langue. Et aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, nous sommes exhortés à la prudence sur l'usage de la langue. Connaissez les proverbes. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et on pourrait citer beaucoup de parallèles de cette parole de sagesse. Et dans le Nouveau Testament également, l'apôtre Jacques en particulier, nous dit que, en particulier en nous approchant de Dieu, nous soyons promptes à écouter, en tout cas plus promptes à écouter qu'à parler. Remarquez qu'en ce moment, je suis en train de faire le contraire de ce que je vous dis, mais enfin, bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous dise quelque chose. La sagesse basique concernant la prudence à l'égard de la parole. En présence de l'adversité, c'est difficile. Confronté au méchant, à l'injuste, on vit un face-à-face difficile. Ce sont des circonstances que nous avons pu connaître, ou peut-être que nous connaissons encore en ce moment. Il est difficile de ne pas ressentir, de ne pas exprimer, parfois, de la colère, de la révolte par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et nous pouvons être tentés par des paroles de réaction, paroles même parfois violentes. Et nous savons que nous qui faisons partie du genre humain, nous sommes soumis aux mêmes tentations de sortir des choses qui sont inappropriées, qui sont injustes ou qui sont trop violentes. Nous avons aussi l'exemple dans le psaume 73, de ce psalmiste qui regardait le sort des méchants et qui était envieux de ce sort. Toujours, ils sont tranquilles, ils sont sans difficulté et pourtant ils se comportent mal. Et moi qui fais attention de bien me comporter, d'obéir à Dieu et d'être dans la justice, je suis tourmenté, je suis châtié, je suis éprouvé. Et pendant tout un bout de ce début de psaume, il parle de cette jalousie qu'il habite à l'égard des méchants qui sont dans la prospérité et qui semblent épargnés de tous les malheurs qui s'abattent sur les humains. Mais à un moment donné, il s'est arrêté et il a dit, cependant, Si je me disais « parlons comme les autres », je trahirais tes enfants. Je ne peux pas parler comme tout le monde. Encore quelque chose qui mérite notre réflexion. Je ne peux pas parler comme tout le monde. Mais il y a quand même une pression terrible chez David. Il est enfermé dans le silence, après sa bonne résolution de ne pas pécher en parole, aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. C'était en référence à cette présence dont j'ai parlé. Mais voilà, je me suis enfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, ma douleur s'est exaspérée. Mon cœur brûlait dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Il y a une description forte de ce bouillonnement intérieur qui agitait le cœur de David. Tout ce bouillonnement de pensées, de sentiments, qui a même des effets physiques, vous l'avez vu. C'est une description réaliste. C'est un effet cocotte-minute, ça bouillonne. Ce n'est pas parce que les conséquences sont difficiles à assumer ou risquent même d'aboutir à de mauvais effets que la décision au départ de se taire était mauvaise. Je crois qu'elle était juste. Mais comme pour les paroles, il y a des silences qui peuvent après devenir insupportables, qui peuvent même provoquer des effets désastreux. Celui qui se tait peut connaître des moments très difficiles. Il y a bien sûr les dangers du refoulement, avec des risques importants. Ne pas parler dans ces circonstances enferme et fait bouillir. Heureusement, David finit par parler. La pression est trop forte, il faut qu'une soupape s'ouvre pour le libérer. Et David parle. Et que dit-il ? Déjà, le fait qu'il accepte de s'exprimer le libère de cette pression. Alors, est-ce que c'est la parole qui libère ou est-ce que c'est la parole qui se libère ? C'est vrai que parler libère, en soi, libère de cette pression intérieure. On connaît bien cette thérapie. Pas seulement un traitement médical, mais on parle des vertus de l'écoute, et c'est bien réel. Et c'est bien malheureux que des gens qui bouillonnent à l'intérieur ne puissent pas se confier à quelqu'un qui soit capable de les écouter. Que se passe-t-il pour David ? Que va-t-il dire ? Et à qui va-t-il le dire ? Et d'abord à qui ? Et à Dieu, bien sûr. Et c'est là la première grande réalité, grande force qu'il faut souligner dans ce débat intérieur intense. David, c'est l'homme qui parle à Dieu quand il n'a personne d'autre à qui parler. C'est l'homme qui parle à Dieu, qui se tourne vers Dieu lorsqu'il ne peut plus rester enfermé en lui-même. Et que dit-il à Dieu ? Sa foi ? Point d'interrogation ? Son besoin de délivrance ? Non. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Est-ce que cette parole nous surprend ? Fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours ? Afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Il a bien fait d'expliciter un peu la première expression, parce que ce n'était pas un désir de suicide, c'était une prise de conscience de sa fragilité. Fais-moi savoir quand finira ma vie. La souffrance est terrible pour lui, et c'est vrai qu'il souhaite qu'elle se termine, et c'est bien normal. Et c'est bien compréhensible. La conscience de sa fragilité et le caractère éphémère de sa vie. « Ma vie, c'est presque rien, dit-il. Mes jours sont limités, tu leur as donné la largeur de la main. » C'est que David a encore des choses à dire à Dieu. Et en particulier, il doit se tourner vers Dieu dans un sentiment de repentance pour le pardon de ses péchés. Et il ne voudrait pas disparaître avant d'avoir été pardonné, avant d'avoir été conscient d'avoir reçu le pardon de Dieu. L'homme est très peu de choses. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Presque rien. Conscience de fragilité, de caractère éphémère. Cette parole qui s'est libérée, est-elle tout de suite une parole positive, une parole d'espérance, une parole qui voit déjà la délivrance et qui l'anticipe? Non. Non. C'est une parole qui dit la fragilité, la détresse, le désarroi. La pression a laissé sortir la détresse. C'est elle qui s'exprime. La libération, ce n'est pas de pouvoir tout de suite chanter la délivrance. La libération, c'est le fait de pouvoir parler à Dieu en toute sincérité et en toute honnêteté. Et c'est une des, pour moi, des grandes leçons de ce psaume et de ces paroles que je suis en train de méditer avec vous. C'est que quand on vient vers Dieu dans la prière, il ne faut pas se contraindre à ne dire que des choses qui débouchent sur du positif. On peut, en toute liberté et en toute sincérité, s'exprimer devant Dieu comme on le ressent. Il y a d'autres étapes, mais là, à ce moment-là, la parole qui se libère pour parler à Dieu est une parole qui demande à Dieu de lui faire connaître sa fragilité, son caractère éphémère. Mais au bout de ce cheminement et de cette expression sincère de désarroi, de perplexité, de fragilité, que dit-il ? Puisque je ne suis presque rien, puisque ma vie est si peu de choses, que puis-je espérer ? Mais ça aussi, il le dit à Dieu. Dès lors, Seigneur, que puis-je espérer ? Il y a une très grande différence entre dire simplement dans le vide « que puis-je espérer ?» ou dire à Dieu « que puis-je espérer ?» Ce n'est pas du tout pareil. Dès lors, Seigneur, que puis-je espérer ? Que puis-je attendre ? Et là, il y a une réponse. Il y a une réponse du seul fait qu'il y a Dieu et qu'il y a la foi du croyant. Mon espérance est toute en toi. Mon espérance est toute en toi. Et nous savons aussi que David va continuer. Lorsqu'il a dit « Mon espérance est toute en toi », il ajoute « De tous mes péchés, sauve-moi ». Parce que s'il y a une parole qui libère, c'est le fait de reconnaître son péché devant Dieu. Et là, nous connaissons le psaume 32, du même, qui dit tout ce que représente pour le croyant le fait de dire à Dieu sa faute. Je lis juste le début de ce psaume 32, qui est toujours du même David, bien sûr. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché. et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je me taisais, tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Voilà la parole qui libère vraiment. La parole de la repentance et de la confession est la parole libératrice par la grâce de Dieu. Et puis, dans la suite, voici, je veux rester muet et ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. C'est l'autre volet de cette confiance exprimée par David à l'égard de son Dieu. Dépouillé de tout, réduit à la totale faiblesse humaine, sans force ni pouvoir face à ses ennemis, David dit à Dieu, « Mon espérance est toute en toi. Pardonne-moi mes péchés, dit-il. Garde-moi debout pour que ma chute ne me réjouisse pas mes ennemis et les justifie de te railler. Garde-moi dans le silence confiant, car c'est toi qui agis. Maintenant, Seigneur, mon silence est bien différent du précédent. Car ce n'est pas le résultat de la crainte de mal parler pour les autres et pour toi. C'est la conscience que le cri de colère contre l'injustice ne peut pas tout seul la corriger. Je me permets de redire cela. La conscience que je viens de prendre, que le cri de colère contre l'injustice ne peut pas tout seul corriger l'injustice. Il faut une action qui rétablisse le droit. Et cette action, est-ce que je peux la faire ? Non. Cette action, Dieu, mon Père, mon Seigneur, cette action, tu es le seul à pouvoir l'accomplir. Je peux rester confiant, car c'est toi qui agis. Tu n'es pas sans action, et je ne suis plus à attendre simplement la mort en me demandant quand est-ce qu'elle va arriver. Ma plainte ne va pas s'éteindre encore, ou s'évanouir comme un rêve. Je souffre encore et j'ai encore des questions et des craintes. Mais je sais, dit David, que toi, mon Dieu, tu agis. C'est toi qui agis. C'est toi qui sais et qui peux agir. Moi, je ne peux pas. Vais-je remplacer mon impuissance par mes discours ? Non. Je me tais pour te laisser agir. La parole humaine, est-ce qu'elle agit ? Oui, un peu. Mais il y a toujours un tel décalage entre la parole qui souhaite et qui désire et qui réclame la justice et l'action qui peut réellement l'accomplir. Après t'avoir prié, après t'avoir dit ma crainte, Seigneur, je vais revenir dans le silence. Parce que c'est toi qui es mon espérance et c'est toi qui agis. Il y a un temps pour les cris, un temps pour les questions, un temps pour se taire ou pour laisser Dieu agir. Et puis, je continuerai à prier. Je prierai encore, mon Dieu, écoute ma prière. Avant, je me disais, je veillerai, mais je suis resté enfermé dans mon silence. Maintenant, je sais qui tu es, mon Dieu. Je sais que tu agis. Je ne sais pas tout ce que tu fais. Je ne comprends pas toujours ce que tu fais. Mais je sais que tu agis. Alors, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Je me tais pour attendre ton action. et je reste attentif et ouvert. Demeure en silence devant l'Éternel et confie-toi en lui. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quelques paroles des psaumes et des lamentations. Et puis je prierai encore, mon Dieu. Je compte sur ton écoute, ta bienveillance. Je te prie de m'épargner ta colère pour que je puisse respirer. Et c'est la fin du psaume. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte comme tous mes ancêtres. Désormais, détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant de partir pour toujours. Sa prière n'est pas encore le chant de délivrance. Et pour cette séquence, en tout cas, pour ce psaume, il la termine ainsi. Il dit encore sa détresse, il dit encore son désir de retrouver le souffle, de pouvoir respirer. Avant de partir, dit-il, pour toujours. Mais il le dit à Dieu. Ce n'est pas le calme, encore, après la tempête. Ce n'est pas le chant de louange et d'action de grâce après la délivrance. Un psaume, une prière, ne se termine pas toujours par la réponse positive de Dieu et le merci du croyant. David reste en attente, en prière, en débat, en souffrance et en question. Mais il reste avec Dieu. Nos prières dans les moments de détresse, de souffrance, ce sont des prières qui sont tournées vers Dieu. Nous n'arrivons pas toujours, à la fin de la prière, à chanter des louanges et des délivrances. Mais nous restons avec Dieu. David ne chante pas encore, à la fin de ce psaume, la délivrance, mais il reste avec Dieu. Et il ne cesse pas de s'adresser à lui. Si j'avais trouvé dans ma Bible que le psaume suivant faisait partie du 39, c'est-à-dire s'il y avait le 39 et le 40 qui se raccrochent au 39, j'aurais dit, ah, là ça se termine bien, il y a un chant de délivrance, vous lirez le psaume 40, et ça y est, ça va mieux. Mais je n'ai pas trouvé cette indication textuelle qui raccrochait ce chant de délivrance à la prière du psaume 39. Alors je me suis permis de méditer avec vous ce matin uniquement le psaume 39 avec comme finale David et nous restons avec Dieu. Nous restons avec le Seigneur dans le désir profond de continuer à pouvoir nous confier en lui, à pouvoir lui exprimer tout ce que nous ressentons en sachant que c'est lui qui agit. Nous ne ferons pas moins que David, rester avec Dieu en sachant que c'est lui qui agit. Amen. Nous allons partager la Sainte Cène. Et